France Culture. Le cours de l'histoire. Xavier Mauduit.
Racisme scientifique et médical, des pseudo-théories pour mieux dominer. Il n'a pas fallu attendre la fin du 19e siècle pour que les discriminations contre des gens, contre des peuples, s'appuient sur des discours savants. Mais au 19e siècle, ces discours prennent une tournure particulière avec l'héritage de ce qui est devenu le racisme, une longue construction au fil des siècles. Dans un contexte de nationalisme exacerbé et d'appétit colonial, la race, un mot si complexe à utiliser, la race, par le biologiste, le généticien Albert Jacquard.
Il s'agit de regarder la réalité en face.
Le cours de l'histoire.
Car oui, le concept de race est parfaitement défini. Et il peut être utilisé sans connotation idéologique lorsque nous décrivons les espèces. Une race, c'est un ensemble de populations d'une même espèce dont les dotations génétiques sont semblables. Oui, pour de nombreuses espèces, ces méthodes permettent de définir des races dont les frontières sont relativement précises. Mais, dans le cas de l'espèce humaine, ces méthodes aboutissent à l'impossibilité de tracer de telles frontières. Cette affirmation, insistons-le, ne résulte pas du désir de lutter contre l'idéologie raciste. Elle est un constat qu'il est d'ailleurs possible d'expliquer.
C'était en 2002 sur France Culture, Albert Jacquard, qui portait un regard scientifique sur le concept de race, un concept difficile à manier, ça c'est certain. Et pour nous éclairer, Élodie Edwards-Grossi, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes maîtresse de conférences en études anglophones et sociologie à l'Université Paris-Dauphine. Vous avez écrit avec Delphine Peretti-Courtis, cet ouvrage, Le racisme scientifique et médical du 19e siècle à nos jours, s'est publié aux presses universitaires de France. Et aujourd'hui, dans le cours de l'histoire, nous avons votre co-autrice Delphine Peretti-Courtis. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes historienne, professeure agrégée à l'Université d'Aix-Marseille. Dites-nous, quand je parle de race, de quoi je parle? Je ne le sais même plus tellement le mot a été utilisé, manié, transformé. Élodie Edwards-Grossi, ce mot-là a une histoire liée à un discours scientifique, mais qui n'attend pas le 19e siècle. C'est en ça que le concept est difficile. À partir de quel moment voit-on l'idée de race se distinguer de ce qu'on pourrait qualifier de lignage et de quelque chose qui s'applique à des peuples? C'est au 18e siècle à peu près?
Oui, tout à fait. Dans le livre, nous montrons que le racisme scientifique renvoie à la manière dont, justement, depuis le 18e siècle, des naturalistes, des médecins, des biologistes ont pu produire et diffuser des théories altérisant des corps qu'ils voyaient comme racisés, comme différents des corps blancs, en cherchant une preuve matérielle de leur différence innée et héréditaire, en examinant donc ces corps, en créant des typologies, des classifications et en justifiant ces différences soi-disant matérielles pour expliquer justement des inégalités entre populations. Et il faut le dire, puisque la catégorisation n'est jamais neutre, comme le disaient notamment des sociologues comme Colette Guillaumin, mais aussi Véronique de Rudder, puisqu'elle appelle toujours la hiérarchisation des groupes entre eux, les groupes ethno-raciaux minoritaires étant toujours définis par la négative par rapport à la norme blanche.
Avec ce terme de scientifique accolé au mot racisme, Jean-Frédéric Chaube, qui est venu dans le cours de l'histoire pour une émission « Comment le monde ibérique a-t-il inventé la pureté de sang ?» émission à écouter, à podcaster sur franceculture.fr et l'appli Radio France, nous expliquait bien la création ici de pureté de sang. Et on pourrait même aller plus loin, de dire que l'idée de scientifique associée au mot de race est quelque chose d'ancien, au sens où les savants du passé déjà portaient un discours scientifique, mais au sens de la science de ce temps-là, sur l'idée de race, Delphine Peretti-Courtis. Ce qui se passe au 18e siècle et au 19e siècle, c'est que le racisme lié à ce discours scientifique ou médical prend une tournure particulière, la théorisation est poussée encore plus loin.
Oui, tout à fait. C'est dans un contexte de développement et d'effervescence des sciences, notamment des sciences naturelles, que la race se voit réappropriée par les scientifiques et notamment par Carl von Linné. Alors François Bernier, tout d'abord dès 1684, contribue à attribuer à des groupes humains cette notion de race biologique, à des couleurs de peau. François Bernier donc développe et invente ce terme de race biologique. Alors le terme de race existait déjà, effectivement, Jean-Frédéric Chaube l'a bien montré sur France Culture il y a deux jours et dans ses travaux. Mais le mot de race est attribué à ce moment-là à des familles humaines, à des groupes humains François Bernier, lui, est un médecin et un voyageur qui a développé cette idée donc à la fin du XVIIe siècle. Mais c'est essentiellement au milieu du XVIIIe siècle, avec les célèbres naturalistes tels que Carl von Linné, dès 1735, et plus spécifiquement dans sa dixième édition du Systema Naturae en 1758. C'est à partir de là qu'il va créer plusieurs races humaines, et notamment quatre grands groupes raciaux. Il va tenter de naturaliser, de biologiser des inégalités sociales qui existent à cette époque et qui se basent notamment sur l'esclavage. Donc il va naturaliser et tenter de rendre scientifique, enfin tenter d'expliquer à la fois les mystères de l'humanité, les mystères de la diversité humaine, en apportant le sceau de la science. Il faut bien réintégrer cette époque, la recontextualiser et comprendre que l'on se trouve là dans une époque d'affranchissement, des thèses religieuses, et l'on cherche à expliquer donc la diversité humaine par la science. Et dès la première grande classification de l'humanité par Linné, il y a une hiérarchisation. C'est-à-dire que l'on va attribuer des tempéraments à des groupes humains, à des races, et notamment le tempérament sanguin à la race blanche, qui est le tempérament qui, depuis Hippocrate et Galien dans l'Antiquité, est attribué aux hommes. Et ils vont attribuer notamment à ce qu'ils nomment la race noire, le tempérament flegmatique ou lymphatique, qui est un tempérament qui, depuis l'Antiquité, est associé au sexe féminin. Considérant qu'il y a depuis l'Antiquité une hiérarchisation qui s'est établie entre les sexes, l'on va, à partir de cette hiérarchisation et de cette théorie des humeurs et des tempéraments, associer à chacun des groupes humains des hiérarchies donc, et des caractères moraux. La puissance est attribuée au tempérament sanguin, la puissance, la force, tandis que la faiblesse, l'infériorité, la fragilité sont attribuées au tempérament lymphatique et flegmatique. Donc dès la première grande classification de l'humanité, il y a déjà une forme de hiérarchisation et des places, des statuts attribués à chacun des groupes humains.
Avec Linné, on est du côté de la Suède, un naturaliste suédois, et en France, nous trouvons des équivalents, sachant que dans ce monde-là, tout le monde se connaît, tout le monde s'écrit, les travaux des uns sont observés par les autres. En France, nous avons Buffon ici, vu par Léon Poliakov, historien du racisme et de l'antisémitisme.
Buffon est intéressant parce qu'on peut se poser la question s'il est raciste ou non. Voilà la vision des choses de Buffon. Vous savez, il avait une belle plume, enfin, il faisait des descriptions. Alors, les descriptions qu'il faisait des hottentotes ou des lapons sont absolument effroyables. Mais Buffon l'explique. Il dit comme suite. L'homme, le vrai homme, l'homme blanc donc, est né dans la zone tempérée. Ensuite, il a eu la mauvaise idée d'émigrer dans les régions soit trop chaudes, soit trop froides, et là, il a dégénéré. Mais, ajoutait Buffon, sûrement s'il revient dans les régions tempérées, il retrouvera, réintégrera, c'est l'expression, la véritable nature de l'homme. Est-il raciste ou non? Il proposait même une expérience. Ça va, n'est-ce pas? Il disait, pour savoir de combien de générations les Blancs ont mis pour dégénérer au noir, il faut faire une expérience. Il faut prendre une colonie de Sénégalais et les envoyer au Danemark, précisément au Danemark, parce qu'il est frais, ne pas les laisser se croiser avec les Blancs et voir au bout de combien de générations ils reviendront aux Blancs. Et par là, on saura en combien de générations ils ont mis pour devenir noirs. Très bien. Mais il est raciste tout de même. Pourquoi il choisit la voie oblique? Est-ce qu'il n'est pas plus simple de prendre des Danois et de les envoyer au Sénégal pour faire la même expérience? Voilà le racisme inconscient.
Léon Poliakov, ici en 1980 sur France Culture. Élodie Edwards aussi. Alors, Poliakov pose la question, Buffon était-il raciste? Et puis il y répond, il dit que oui, et parce que ce regard-là raciste est évidemment, on l'entend, biaisé au moment de réfléchir aux races. Ces naturalistes du XVIIIe siècle ont déjà, dans leur univers mental, une hiérarchisation des races. Et c'est présent ici, et l'exemple que donne Poliakov est amusant. C'est des Noirs qu'on va envoyer au Danemark, on ne va pas imaginer envoyer des Danois au Sénégal.
Tout à fait. Les médecins, les naturalistes sont partie prenante de la société de l'époque, vivent dans des contextes esclavagistes, plus tard au 19e siècle, dans le contexte aussi de la colonisation. Ce sont des individus qui sont formés dans des bastions universitaires, qui sont des élites sociales, qui sont aussi très proches des élites politiques de l'époque. Je pense notamment à l'exemple d'un médecin, le médecin Samuel Cartwright, dont on parle dans le livre, qui est un médecin donc états-unien, qui évolue en Louisiane, qui est d'ailleurs francophone, et qui va être lui-même le médecin d'un certain nombre d'hommes politiques de l'époque, notamment Jefferson Davis, qui est le leader des confédérés pendant la guerre de sécession. Donc c'est quelqu'un qui est un conseiller du prince et qui était très proche de ce pouvoir politique. Et ce qu'il faut aussi voir, c'est que les médecins de l'époque, effectivement, malgré ce rapport exceptionnalisant qu'ils ont dans la manière dont ils définissent leur propre fonction sociale, puisqu'ils soignent, mais ils théorisent aussi, sont aussi effectivement partie prenante de cette société et accumulent des citations, accumulent cette recherche de reconnaissance et de prestige en échangeant avec leur père pour vraiment ériger aussi en norme les savoirs qu'ils produisent.
Avec ici, Delphine Peretti-Curtis, un univers qui dépasse celui des pays, celui des nations. Nous sommes peu à peu au 19e siècle, quand s'affirment les identifications nationales. Mais ces identifications-là n'ont pas vraiment de sens quand on évoque l'univers des sciences. C'est-à-dire qu'on est sur plus quelque chose qui s'approche d'un monde social où ces gens-là se reconnaissent. Est-ce qu'il y a un portrait type ici du savant qui réfléchit à la race en cette fin du XVIIIe siècle et au XIXe siècle ?
Oui, bien sûr, il y a de nombreux portraits types de ces savants qui réfléchissent à la race. Ils réfléchissent ensemble à la race, c'est-à-dire que se crée au XIXe siècle, donc dans la continuité des travaux de Carl von Linné en Suède, de Blumenbach en Allemagne, de Buffon en France, ce sont des médecins, des anatomistes, des anthropologues, des chirurgiens, des zoologistes, de l'ensemble de l'Europe, mais aussi des États-Unis qui se constituent en sociétés savantes et qui créent notamment des sociétés d'anthropologie telles que la Société d'anthropologie de Paris, créée en 1859, celle de Londres, celle de Berlin, celle de Tokyo en 1884, celle de Philadelphie, de New York. Et dans ces sociétés savantes, ils s'accueillent les uns les autres, ils se lisent, ils se citent. Ce savoir scientifique sur les races humaines se constitue donc par les citations, les répétitions, par ces entrevues, par la publication donc d'ouvrages, d'articles dans des revues médicales, dans des revues anthropologiques, mais également dans une presse parfois plus généraliste. Donc il y a effectivement des circulations majeures de ces savoirs scientifiques qui s'enrichissent souvent sans contradiction. Alors on ne peut pas toutefois dire qu'il n'y a pas de contre-discours, il en existe et c'est tout à fait intéressant de voir la manière dont ces contre-discours apparaissent et se voient réfutés face à un discours dominant qui à l'époque souhaite définir de manière toujours de plus en plus précise et minutieuse la race. Il y a par exemple Tiedemann en Allemagne qui cherche à réfuter Broca, notamment sur l'idée selon laquelle il y aurait un lien entre la taille du crâne et l'intelligence, entre les races et l'intelligence. Et c'est tout à fait fascinant parce que alors Pierre-Paul Broca en France, c'est le portrait type de ce scientifique. Il est à la fois chirurgien et anthropologue. Il va devenir sénateur, donc on voit aussi les liens très étroits entre la science et le politique. Et Broca donc détient une place dominante en France. Il est polygéniste, donc lui il croit en l'existence de plusieurs espèces humaines et il cherche à démontrer par ses études sur la craniologie et la craniométrie notamment, la mensuration des crânes, il cherche à prouver cette idée selon laquelle il y aurait des races supérieures intellectuelles intellectuellement et d'autres races inférieures. Et il utilise pour cela donc des outils très, des outils qu'il invente lui-même, donc le compas d'épaisseur par exemple pour mesurer ses crânes. Mais on voit qu'en Allemagne il y a des oppositions, mais ces oppositions servent en fait à renforcer ce discours dominant qui arrive de toutes parts et qui s'échange donc à la fois donc dans ces journaux, dans ces ouvrages, mais également dans les universités. Donc ce savoir se transmet, se valide, s'accrédite par la circulation, par la diffusion, mais aussi par l'enseignement.
Élodie Edouard Grossi.
Alors Delphine l'a dit, effectivement, il y a une accumulation de citations, un certain syncrétisme dans la manière dont ces citations circulent, puisque des experts qui sont naturalistes, mais aussi médecins, vont échanger, n'utilisant pourtant pas les mêmes méthodes. Les médecins aussi ont plusieurs fonctions, travaillent à la fois au contact des populations, dans les plantations par exemple, mais c'est aussi des chercheurs, sont aussi des professeurs qui vont diffuser, qui vont écrire dans des revues médicales. Donc sur les deux plans, ces savoirs sont à la fois produits puis circulent. Il y a aussi deux choses à mentionner, qui est le fait qu'un certain nombre de médecins vont chercher à travailler pour l'élite, notamment l'élite des maîtres planteurs à l'époque de l'esclavage. C'est le cas par exemple de J. Marion Sims, qui va chercher à expérimenter pour se faire un nom, mais il va aussi, puisqu'il est spécialiste lui des chirurgies reconstructives, il va chercher à nourrir l'économie politique du moment par ses découvertes, notamment parce qu'il va permettre aux maîtres planteurs de stabiliser et de produire sur plusieurs générations des enfants esclavagisés qui vont devenir de nouveaux travailleurs. Donc là, on est au début du 19e siècle. Et donc, on voit bien la fonction sociale et les liens qui unissaient cette élite médicale avec l'élite économique dans ces contextes. Il y a aussi des contextes de circulation plurilingue que Delphine a un petit peu mentionné, notamment un grand contexte de circulation qu'on voit apparaître, un grand réseau, c'est entre la Nouvelle-Orléans et Paris. Pourquoi ? Parce que la Nouvelle-Orléans, à l'époque du 19e siècle, c'est une ville majoritairement francophone, donc de nombreux médecins vont être formés à la Nouvelle-Orléans, notamment le médecin Alfred Mercier, qui est un créole francophone, qui va partir à la faculté de médecine de Paris et qui a notamment beaucoup publié sur la fièvre jaune dans les années 1850, à l'époque des épidémies qui frappaient la ville de la Nouvelle-Orléans. Et donc, ces travaux vont être lus ensuite à Paris et vont aussi donner un nouveau point de vue très intéressant qui va être très investi par des médecins français, notamment le médecin Dutrouleau, qui va ensuite théoriser sur la fièvre jaune à une époque où la France aussi se positionne pour ce qui est des futurs territoires qui vont devenir donc des colonies. Et donc Dutrouleau va beaucoup écrire sur le contexte de la Martinique, va beaucoup écrire sur la potentialité en fait que cette fièvre touche aussi notamment les colons blancs en Martinique, et donc va s'inspirer des écrits de Mercier qui ont pourtant été produits dans un autre contexte et dans un autre territoire pour nourrir aussi ses savoirs.
On entend bien ici cette circulation entre tous ces chercheurs avec des influences des uns sur les autres. Et il faut prendre en compte cette circulation pour saisir comment, tenez par exemple, Paul Broca, en 1861, en arrive à apporter un discours particulier sur ce qu'est la race.
L'inégalité intellectuelle des races est chose bien connue. Et tous ceux qui ont étudié la question ont constaté que le prognatisme, dû en grande partie à l'affaissement de la région antérieure du crâne, n'existe que chez les races inférieures. Mais on a remarqué que dans les races prognates, la partie postérieure du crâne s'agrandit en même temps que la partie frontale diminue. Or, il est certain aujourd'hui que l'inégal développement des lobes antérieurs n'est pas la seule cause de l'inégalité intellectuelle des races. Monsieur Gratiolet, en particulier, a montré que la petitesse du front chez les prognates n'est nullement compensée par l'ampleur de l'occiput.
Delphine Peretti-Curtis, quand on entend un tel discours qui date de 1861, Paul Broca, qui écrit dans le bulletin de la Société d'anthropologie de Paris, nous n'imaginons pas combien cela légitimise un discours savant sur ce qu'est la race. C'est ici presque factuel, par des mesures de crâne. Et de notre regard d'aujourd'hui, nous savons que tout cela est faux. Ces pseudo-sciences ne tiennent pas. Et pourtant, placées dans leur contexte, elles ont un effet considérable.
Oui, tout à fait. Alors, d'ailleurs, on parle du terme de pseudo-science dans l'ouvrage assez largement parce que, en réalité, au XIXe siècle, elles n'étaient pas du tout considérées comme des pseudo-sciences. C'était donc des sciences qui construisaient le savoir à une époque que l'on a retenue sous le nom de scientisme, de foi toute puissante en la science. Une période qui est celle du positivisme également, définie par Auguste Comte, où il s'agit de prouver l'ensemble des faits par des preuves jugées scientifiques. Donc ce vocabulaire de pseudo-science est très contemporain à l'époque. Donc ce sont des scientifiques reconnus, renommés, dans une science qui se construit et qui définit le savoir, un savoir qui progressivement se substitue au savoir religieux pour édicter de nouvelles normes et de nouvelles vérités. Donc en effet, ce texte est tout à fait intéressant si l'on retient notamment la prédominance de Broca dans son milieu, dans le milieu français, mais également européens et américains. Et donc cette inégalité intellectuelle des races qu'il définit telle une vérité péremptoire, donc il va effectivement avoir une grande influence à la fois sur les autres scientifiques, mais également sur les pratiques coloniales, puisqu'il définit là une infériorité intellectuelle de certains groupes humains qui seraient innés et immuables. L'on sait également à cette époque que ce type de discours se retrouve dans des journaux de médecine, donc en France, en Allemagne, aux États-Unis, et notamment dans la Gazette médicale publiée à Paris dans les années 1860, où l'on va voir le même type de discours, mais avec d'autres associations. C'est-à-dire que le fait de tenter de prouver l'infériorité intellectuelle de certaines races va de pair avec l'idée selon laquelle ils auraient une sexualité excessive. Et c'est un lieu commun qui apparaît dans de nombreux discours médicaux et qui se répand dans de nombreux pays. Et l'on va affirmer notamment le fait qu'il y aurait un cerveau plus léger chez les populations noires, un crâne de taille inférieure à celui des crânes blancs, et en parallèle des organes sexuels qui seraient proéminents et qui définiraient une hypersexualité chez ces peuples. Donc c'est assez intéressant de voir la façon dont la science contribue à accréditer en fait des stéréotypes qui étaient déjà présents depuis l'esclavage et qui se renforcent pendant la colonisation et qui contribuent à nourrir des discours sur la mission civilisatrice. Il s'agit d'aller éduquer et civiliser des peuples qui ont été définis par la science comme étant inférieurs. Donc la science contribue à prouver des idéologies qui sont des idéologies politiques et qui recouvrent des enjeux économiques fort.
Élodie Douars-Grossi, quand on écoute ces discours-là, bien sûr, étudier le texte nous permet de saisir comment, à ce moment-là du 19e siècle, alors que l'esclavage est encore présent, en tout cas si on prend un personnage comme Paul Broca, par effet de génération, l'esclavage en France est aboli en 1848. Donc il a été dans une France qui tolérait l'esclavage. Pour les États-Unis, c'est 1865. Par le discours, nous avons l'argumentation et la pensée. Et puis, par le regard sur l'univers social de ces personnages, en fait, ce qu'on peut dire, c'est que donc ce sont des hommes blancs d'un milieu social favorisé, éduqué, qui ne connaissent pas tant que ça le monde dont ils parlent, au sens où ce ne sont pas des planteurs qui sont au contact de leurs esclaves. Ils sont loin de tout ça. On a vraiment ici la construction d'un discours avec de la distance, et de la distance dans l'humanité comme une évidence.
Oui, tout à fait. La distance est effectivement une fonction très claire et surtout une modalité par laquelle s'exprime le racisme scientifique et médical. Ce qu'on peut voir aussi, c'est que la distance, elle est temporelle. C'est-à-dire que très souvent, il y a des circulations, des citations, notamment Broca, par exemple, qui écrit dans le contexte, finalement, post-esclavage, qui va reprendre des textes bien antérieurs. Et on voit ces circulations, ces effets de circulation, c'est-à-dire que les hommes, donc ces scientifiques blancs, vont très souvent aller puiser dans les travaux des générations antérieures. Je pense par exemple à un exemple beaucoup plus, un peu plus contemporain. Dans le livre, nous parlons de John Baker, qui est un biologiste qui écrit écrit dans les années 1970, donc quand même très récemment par rapport à d'autres scientifiques dont on a pu parler, qui va aller puiser dans les travaux de Paul Broca, d'Armand de Quatrefages, notamment pour théoriser sur des corps qu'il se représente comme différents. C'est quelqu'un aussi qui va travailler cette sérialisation des données à partir d'un cas, c'est-à-dire il va partir par exemple d'un rapport d'autopsie, il va partir d'un rapport anatomique sur un individu pour finalement produire une théorie plus globale sur ce que serait une catégorie entière d'individus. Et donc on peut voir ici, par la sérialisation aussi de ces cas, la manière dont la distance se crée, c'est-à-dire que finalement ces médecins n'ont pas grand-chose à voir avec les patients et les patientes, par exemple, qu'ils traitent. J'aimerais aussi citer l'exemple de J. Marion Sims, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui était donc un médecin états-unien qui travaillait dans le contexte de l'esclavage au début du 19e siècle. Et J. Marion Sims, c'est quelqu'un qui, par exemple, dévaluait absolument le savoir des femmes noires qui étaient des sages-femmes, en fait, dans les plantations, qui ne les citaient pas dans ses travaux, qui ne les considéraient pas comme dignes d'intérêt pour apporter leur pierre à l'édifice de la science. Et donc, on voit aussi ces effets de distance dans l'autorité médicale qui est constituée ici par un groupe de personnes qui finalement se détachent de manière très, très probante des populations qu'ils traitent.
Et puis merci d'avoir rappelé la temporalité des choses, parce que effectivement ces écrits du 19e siècle ont des effets plus tard. Il n'y a qu'à penser que l'ouvrage L'essai sur l'inégalité des races humaines d'Arthur Gobineau, c'est 1855, et Gobineau a une influence durant tout le 19e siècle avec la mise en place de la race aryenne qui inspire, on le sait bien, l'Allemagne nazie. Delphine Peretti-Courtis, cette histoire-là des races qui se construisent, c'est vraiment aussi une histoire sociale, on l'entend bien.
Oui, tout à fait. C'est-à-dire que les scientifiques, on l'a évoqué tout à l'heure, évoluent dans un contexte idéologique, social, économique et politique, et ils écrivent sur leur temps. Ils tentent de créer des théories, des méthodes, des outils, des instruments, en réalité, pour valider des réalités sociales et tenter, à partir de ces réalités, de trouver des raisons à ces réalités, de chercher dans la science et dans ces nouvelles théories à accréditer ce qu'il le monde dans lequel ils évoluent. Donc il y a une grille de lecture racialiste très forte. Lorsque Carl von Linné écrit au XVIIIe siècle dans ce monde qui est celui de l'esclavage, lorsque Cuvier dissèque Sargi Bartman, cette femme que l'on a surnommée la Vénus Hottentote, lorsque Broca crée des instruments craniométriques. Donc oui, ce sont des réalités sociales, c'est un monde social qui se voit biologisé, naturalisé et défini pour longtemps et de manière pérenne. Enfin, on va attribuer des places sociales, biologiser, naturaliser en réalité des situations sociales et les rendre naturelles. On va créer une forme de déterminisme naturel et biologique pour des groupes humains. Et Gobineau s'inscrit bien sûr dans ce contexte-là. En 1855, lorsqu'il publie l'essai sur l'inégalité des races humaines, qu'il définit la supériorité de la race aryenne, qu'il proscrit les métissages. Donc Gobineau a une influence majeure en Europe et notamment sur Adolf Hitler et la pensée eugéniste qui se développe à la fin du 19e siècle et dans les premières décennies du 20e siècle.
Et quelque chose que moi je voudrais bien saisir ici dans le cours de l'histoire, Aurélia Michel, l'historienne, est venue pour nous parler de son livre Un monde en nègre et blanc. C'est une émission donc à réécouter sur franceculture.fr et l'appli Radio France. Et Aurélia Michel nous expliquait que l'esclavage existait avant le racisme en tant que tel. L'esclavage tel que nous l'entendons aujourd'hui, l'esclavage du début du XVIe siècle n'est pas le même qu'au XIXe siècle, et le racisme du début du XVIe siècle n'est pas le même qu'au XIXe siècle, mais que ce sont les abolitions de l'esclavage qui renforcent les propos racistes. L'ouvrage de Gobineau, c'est 1855, l'abolition de l'esclavage pour la France, c'est 1848. Est-ce que vous constatez aussi cela, l'une et l'autre, Élodie Edouard-Grossi et Delphine Peretti-Courtis, quand vous écrivez le racisme scientifique et médical, c'est que l'abolition de l'esclavage, c'est aussi un moment qui va permettre de développer des propos racistes. Et là, on va se demander presque pourquoi, si ce n'est la colonisation. Élodie Edouard-Grossi.
Il y a effectivement un contexte qui est favorable à la production de ces théories à des moments charnières. Donc, par exemple, un de ces moments, c'est effectivement l'abolition de l'esclavage ou du moins la montée des tensions, par exemple, aux États-Unis entre le Sud et le Nord. Donc, dans les années 1850, on est à quelques années, finalement, de la guerre de sécession. Les sudistes commencent à se sentir dans une position de faiblesse. Et c'est l'époque, par exemple, où Samuel Cartwright, ce médecin qui évolue donc en Louisiane, va théoriser la drapétomanie, qui est une maladie proprement politique, puisqu'il va théoriser par cette maladie le fait que les esclaves fuient en nombre important des plantations, cherchent à acquérir leur liberté, notamment dans les territoires du Nord, en traversant cette frontière symbolique entre les territoires donc esclavagistes et les territoires libres. Et Cartwright va voir en cette fuite, en fait, la preuve que ces esclaves indociles sont fous. Il va catégoriser cette fuite, cette émancipation, cette volonté d'émancipation en une forme de folie. Donc là, on touche à la santé mentale. Et donc, on voit bien ici que certaines maladies, certaines définitions des maladies sont une manière, en fait, pour des médecins comme lui, à un moment justement où les tensions se font de plus en plus fortes, de justifier l'ordre social raciste dans lequel il évolue. Et donc il faudrait toujours, quand on étudie le racisme scientifique et médical, on veut justement montrer que ce racisme, il facilite de fait, par les croyances en une scientificité pure, l'emprise du racisme comme rapport social structurant. Et donc ici, on est vraiment dans ce moment où il y a une remise en question, en fait, de ce modèle esclavagiste et donc la nécessité pour des médecins comme Cartwright de publier, de s'exprimer sur le sujet.
Delphine Peretti-Curtis.
Oui, alors en effet, c'est tout à fait paradoxal le fait que l'abolitionnisme crée en fait un fort développement, une effervescence d'écrits sur la race. Parce que lorsque l'on abolit l'esclavage en 1848, les scientifiques sont également très imprégnés de ces discours abolitionnistes. Mais il s'agit de prouver par la science et par le biologique le maintien de populations sous tutelle ou bien la conquête de nouveaux territoires et de nouveaux peuples. Et les scientifiques vont prouver cette importance de cet enjeu qu'est la colonisation, notamment en développant cette idée selon laquelle il y aurait une mission de la part des peuples européens. Et là, nous avons les scientifiques, mais c'est toute la création d'imaginaires qui apparaissent notamment dans la littérature. Par exemple, chez Rudyard Kipling, dans son poème publié en 1899, où il parle du fardeau de l'homme blanc. Donc les scientifiques, les écrivains, les intellectuels, les politiciens développent cette idée selon laquelle il faut libérer les peuples. Donc l'esclavage est aboli en 1833 dans l'Empire britannique, en 1848 dans l'Empire français, en 1865 aux États-Unis. Donc comment justifier la mise sous tutelle de populations, leur maintien sous cette tutelle européenne ou américaine, et comment le justifier? Eh bien, la science apporte un crédit à la colonisation, elle apporte un crédit à la mise au travail de populations entières, alors que l'on a libéré ces populations, enfin que ces populations se sont libérées également elles-mêmes de l'esclavage. Donc comment justifier le travail forcé qui se maintient d'ailleurs dans les colonies françaises jusqu'en 1946? Eh bien, on puise dans le biologique, puisque dans la continuité de Samuel Cartwright aux États-Unis, là je reviens sur l'Empire français, nous avons des médecins coloniaux, des militaires, des administrateurs qui, sur le terrain colonial, fournissent des études en cherchant à valider cette idée de servitude innée des populations. Donc il n'y a plus là l'idée d'oppression qui prédominait pendant l'esclavage, mais on va transformer cette oppression en une forme de libération. L'on éduque les peuples parce qu'ils sont considérés comme étant inférieurs intellectuellement. On les met au travail parce que leur corps est fort et parce qu'ils ont besoin dans les les discours, on considère qu'ils ont besoin de cette obéissance, de cette autorité. Et le lieutenant Roeckel, en 1911, dans son ouvrage « L'éducation des races noires », donc c'est le titre de son ouvrage, il s'appuie sur de nombreux médecins pour évoquer le fait que les populations africaines ont besoin d'autorité et ont besoin d'être mises au travail. Et là, on retrouve tout à fait le lien avec la drapétomanie, cette idée de servilité qui serait innée. Donc la biologisation de l'humain à ce moment-là et la validation scientifique de certaines thèses racistes des époques précédentes contribuent à légitimer la colonisation et la pérennisation de certaines pratiques qui avaient été en principe abolies.
Et bien pour illustrer vos propos, un texte de 1866. Vous l'avez rappelé, hein, 1833, abolition de l'esclavage dans le monde britannique, 1848 pour la France, 1865 pour les États-Unis, donc 1866, il n'y a plus d'esclavage, il n'y a peut-être plus besoin de légitimer la domination et l'oppression. Ben, le docteur Tally le fait.
Si j'envisage la sensibilité des Noirs, leur niveau intellectuel et l'action directe du soleil sur leur peau sont des faits qui doivent étayer les considérations suivantes. Plus l'intelligence individuelle du Noir est obscure, plus la sensibilité paraît engourdie. Ce n'est pas le courage qui lui fait supporter la douleur sans se plaindre, c'est l'indifférence passive. De ces êtres tout à fait abrutis par l'ignorance, la misère et l'esclavage, si l'on passe à l'indigène à peu près civilisé, un mépris complet pour la souffrance s'observe encore.
France Culture, le cours de l'histoire. Xavier Mauduit.
Et donc il en est à dire que bah non, les Noirs ne souffrent pas, donc on peut les taper, on peut faire ce qu'on veut, Elodie Edwards-Grossi. Vous avez évoqué cette temporalité. Quand on entend des discours comme celui-ci, c'est-à-dire après l'abolition de l'esclavage, presque envie de dire que c'est aussi pour légitimer le passé, pour se dire bon ben, ce passé horrible qui a duré plusieurs siècles avec des millions de personnes déportées, battues, torturées, ben, c'était normal parce que regardez, on vous explique pourquoi et de toute façon... ils ne ressentent pas la douleur.
Tout à fait. Alors effectivement, sur les théories de la douleur, on voit ici un vrai lien entre les époques. C'est-à-dire que lorsqu'on parlait tout à l'heure du poids encore important de nombreuses théories qui ont pu être développées au XVIIIe siècle, au XIXe siècle dans nos sociétés, on peut voir que les théories effectivement portant sur la douleur, l'expression soi-disant différentielle de la douleur, c'est quelque chose qui est encore très présent. Pour donner un exemple plus concret, on peut penser encore une fois à ce médecin, donc J. Marion Sims, qui pratiquait des opérations sur les femmes esclavagisées noires sans anesthésie à l'époque, puisqu'il y avait cette croyance dans le fait que ces femmes ne ressentaient pas la douleur au même titre que les femmes blanches. Donc il y avait une forme de naturalisation aussi à la fois des douleurs donc ressenties lors d'opérations chirurgicales, donc c'est une violence bien sûr inouïe, mais aussi des douleurs de l'accouchement, puisqu'il était vu, ces femmes étaient vues comme finalement naturellement promptes à donner naissance sans ressentir la douleur par rapport aux femmes blanches, encore une fois. Et en médecine, on retrouve tout au long du XXe siècle jusqu'à nos jours cette idée finalement qui s'articule en France autour du syndrome méditerranéen. Le syndrome méditerranéen, c'est la croyance erronée qui laisse penser que des personnes qui sont originaires donc, d'Afrique subsaharienne ou originaires du Maghreb ne ressentiraient pas la même douleur, ou du moins que ces personnes exagéreraient leur douleur. Et cela pousse certains personnels soignants à moins prendre en charge, à moins écouter, à moins prescrire aussi d'antidouleurs. Et donc ça a un effet, bien sûr, capital sur les trajectoires sanitaires encore aujourd'hui. J'aimerais juste revenir sur une citation en reprenant les mots de la sociologue Colette Guillaumin, qui était une autrice pionnière dans le champ des études sur le racisme en France, qui parle, elle, justement, du fait que la race, en tant que telle, aujourd'hui, on le sait, n'existe pas, n'a pas de preuves matérielles d'existence. Et pourtant, elle existe socialement, c'est-à-dire qu'elle a des effets sociaux sur les trajectoires sociales et sanitaires, par exemple, lorsqu'on pense à la santé, et elle produit des morts. C'est-à-dire que dans la manière dont les soignants et soignantes se représentent les corps encore aujourd'hui altérisés, racisés, ils vont permettre en fait la reproduction de ces théories, s'imprégner de cet imaginaire qui a encore effet aujourd'hui, et dans la manière différentielle dont ils vont prendre en charge ces patients, ils vont aussi provoquer ce genre de bouleversement.
Avec l'abolition des esclavages, nous n'avons pas la disparition des populations qui anciennement étaient esclavisées. Ça, nous le savons bien. Et dans le même temps, Delphine Peretti-Curtis, il y a la colonisation. C'est-à-dire que tous ces discours scientifiques et médicaux sur la race qui peuvent expliquer un passé avec l'esclavage sont très utiles pour expliquer un présent et un futur avec la colonisation.
Oui, en effet, et je voudrais juste revenir sur un point avant de répondre à la question, notamment au sujet de la résistance à la douleur, pour évoquer les circulations scientifiques également de ces théories au Canada, parce qu'on évoque également le cas du Canada dans l'ouvrage, et notamment le cas de médecins qui sont formés en France à cette époque. Alors, ce sont des médecins de la Nouvelle-France et du Québec actuel, qui cherchent à prouver également la résistance des autochtones. Donc, dans la lignée du docteur Tally, mais plus tardivement, là on se trouve dans les années 1890, c'est un chirurgien et médecin qui est également maire de Montréal, donc on voit là aussi les liens très étroits entre la science et le politique, qui cherche à prouver la résistance des autochtones à la douleur et qui va dans une conférence à Nottingham, donc une autre circulation, il vient là à Nottingham, donc pour présenter un fémur d'un individu autochtone, non, et donc montrer comment la résistance aux serait intégrée en fait à ce corps. Il développe l'idée selon laquelle il récupérerait mieux après des blessures et des accidents, et en fait il reprend des théories qui étaient en cours à l'époque sur les populations colonisées d'Afrique notamment, où l'on considérait qu'ils récupéraient mieux après les opérations, on considérait qu'il n'était pas utile de leur fournir d'antidouleurs ou d'anesthésiants. Voilà, donc il y a toute une rhétorique liée à la sauvagerie et à la civilisation, parce qu'en réalité au-delà de la race, ce sont des considérations liées à toute cette dualité entre la nature et la culture. Et l'on va ranger du côté de la sauvagerie, de la primitivité, du rapport à la nature, de la proximité avec l'animal, de nombreuses populations colonisées, mises sous tutelle ou exploitées. Et aujourd'hui, au Canada, nous avons encore des permanences de ce type de croyances. Élodie a parlé du syndrome méditerranéen pour la France. Il y a aux États-Unis de nombreux cas où l'on sous-évalue la douleur des populations autochtones, et notamment Joyce Echaquan en a été victime en 2020, et ça a donné lieu à la naissance du principe de Joyce. Donc c'est une femme autochtone dont on a déconsidéré la douleur. La situation a été enregistrée et depuis donc l'on reconnaît au Canada l'existence d'un racisme systémique et médical, et la volonté de lutter activement contre ces préjugés, ces biais raciaux qui perdurent aujourd'hui dans le monde médical.
Delphine Peretti-Curtis, donc nous avons là l'argumentation pour une mission civilisatrice, comme cela a été présenté. Nous avons des gens qui ont besoin d'être accompagnés, éduqués, suivis, en tout cas qui sont dominés. Et puis dans le même temps, puisqu'ils ressentent moins la douleur et qu'ils sont solides, hein, vous venez de nous le dire, bah, autant les faire travailler.
Oui, tout à fait. Donc cela justifie au Canada, aux États-Unis, après l'abolition de l'esclavage dans l'Empire britannique ou encore dans l'Empire français, dans l'Empire belge, le maintien de situations d'exploitation, la construction d'infrastructures, donc exploitation à la fois dans le domaine agricole, mais également dans la construction des chemins de fer. Et on peut penser notamment à la construction du chemin de fer Congo-Océan, bien illustré, bien documenté par André Gide. Chemin de fer donc qui a été construit entre 1921 et 1934 par des personnes donc du Congo, mais également des personnes déportées des régions environnantes. Et ce sont 17 000 personnes qui sont mortes dans la construction de ce chemin de fer Congo-Océan. Donc des personnes que l'on a considérées comme étant plus résistantes et qui étaient vouées à la mise en valeur. On parlait à cette époque, notamment Albert Sarraut a écrit un ouvrage intitulé « La mise en valeur des colonies ». Et cette mise en valeur devait se faire par ces corps plus forts que l'on considérait comme étant acclimatés, comme étant immunisés immunisés face à certaines maladies comme la fièvre jaune. Donc ça, ça a été un stéréotype qui a effectivement pendant très longtemps animé la pensée des savants et des médecins. Pourtant, à cette époque, on sait que les personnes noires donc, sont également vulnérables à la fièvre jaune. Mais l'on va utiliser, exploiter ces corps que l'on considère encore jusqu'au milieu du XXe siècle et jusqu'à l'invalidation de ces théories que l'on considère comme fortes et résistantes. Et l'on voit qu'il y a effectivement de nombreuses permanences, voire résurgences encore de nos jours de ces stéréotypes.
Et dès lors, utiliser les races pour expliquer le monde facilite les formes de domination.
Arrivé à un certain niveau de puissance et de complexité, la civilisation cesse de grandir. Et dès qu'elle ne grandit plus, elle est condamnée à décliner rapidement. L'heure de la vieillesse va sonner bientôt. Cette heure inévitable est toujours marquée par l'affaiblissement de l'idéal qui soutenait l'âme de la race. À mesure que cet idéal pâlit, tous les édifices religieux, politiques ou sociaux dont il était l'inspirateur commencent à s'ébranler. Avec l'évanouissement progressif de son idéal, la race perd de plus en plus ce qui faisait sa cohésion, son unité et sa force. L'individu peut croître en personnalité et en intelligence, mais en même temps aussi l'égoïsme collectif de la race est remplacé par un développement excessif de l'égoïsme individuel accompagné de l'affaiblissement du caractère et de l'amoindrissement des aptitudes à l'action. Ce qui formait un peuple, une unité, un bloc, finit par devenir une agglomération d'individus sans cohésion et que maintiennent artificiellement pour quelque temps encore les traditions et les institutions. C'est alors que, divisés par leurs intérêts et leurs aspirations, ne sachant plus se gouverner, les hommes demandent à être dirigés dans leurs moindres actes et que l'État exerce son influence absorbante. Passer de la barbarie à la civilisation en poursuivant un rêve, puis décliner et mourir dès que ce rêve a perdu sa force. Tel est le cycle de la vie d'un peuple.
La psychologie des foules, c'est l'ouvrage de Gustave Le Bon en 1895. Avec cette idée de race, Élodie Edwards Grossi, appliquée à d'autres, j'ai presque envie de dire appliquée à soi-même, au sens où il y a la crainte dans le même temps du déclin, de la déperdition d'une race qui serait menacée par d'autres races. Pour le dire autrement, le racisme scientifique et médical, et je reprends l'ouvrage que vous avez écrit avec Delphine Peretti-Curtis, c'est aussi cela, c'est lire l'intégralité du monde avec des races qui s'opposent et certaines déclinent et d'autres sont menaçantes.
Tout à fait. Et on voit justement cette peur du déclin également au XXe siècle. Lorsqu'on regarde notamment les travaux de John Baker, qui était un biologiste qui, dans les années 1970, avait publié un ouvrage qui s'intitule Race, à une époque justement où finalement ces théories étaient déjà battues en brèche, puisque à partir des années 50, il y avait eu les déclarations de l'UNESCO qui venaient justement condamner très fermement le fait que la race en tant que telle ne puisse être une catégorie matériellement viable, n'était pas une catégorie biologique à proprement parler, avait des effets sociaux certes, mais ne pouvait pas être mesurée. Donc il y avait aussi cette remise en question de la quête d'une preuve matérielle. On passe justement d'un contexte où cette quête scientifique s'articule autour de la recherche d'une preuve visible à un contexte où on vient justement condamner justement cette quête, et pourtant des individus comme Baker qui lui-même est quelqu'un relativement marginalisé, il faut le rappeler au sein de sa discipline, c'est quelqu'un qui écrit à la fin de sa vie, il n'est plus lui-même en poste à l'université d'Oxford, et pourtant il publie ce type de travail. Et ce qui est intéressant à voir, c'est qu'il publie son livre au moment justement où l'Empire britannique est en train de se fracturer, c'est-à-dire au moment de la décolonisation. Et c'est quelqu'un qui maintient des liens très forts avec diverses sociétés, notamment une société donc politique en Afrique du Sud. Et donc il va en fait par la circulation de ces théories chercher aussi encore une fois à montrer que le passé, que les résurgences du passé, notamment en Afrique du Sud, dans le régime de l'apartheid, sont toujours un présent qu'il voit comme absolument nécessaire. Et donc, c'est quelqu'un qui, en fait, a cette nostalgie, et il faut bien le dire, il a cette nostalgie de l'Empire britannique tel qu'il était auparavant. Et malgré cette marginalisation dans sa discipline, il va continuer à vulgariser ses idées. Et c'est aussi peut-être la deuxième période de la diffusion du racisme scientifique médical. C'est l'époque aussi où ces théories continuent, encore une fois, à essaimer, à être diffusées, non plus dans les arcanes finalement institutionnalisées de la science, mais dans des publications éparses qu'il réussit à faire sortir, dans des organes de presse notamment moins regardants, où ces théories vont continuer à diffuser et à bien sûr avoir un effet extrêmement négatif.
Et cet effet négatif concret, celui qui conduit à des génocides, il est visible au moment même où se mettent en place ces pseudo-théories scientifiques. Delphine Peretti-Curtis, les génocides qui ont lieu en Afrique, les Namas, les Herero, et tout cela, les camps de concentration allemands en Afrique, c'est le tout début du XXe siècle. C'est intrigant et perturbant de voir comment ces médecins, ces savants poursuivent leur discours alors que, concrètement, ils peuvent le lire dans la presse, ces discours-là sont en train de massacrer des dizaines, des centaines, des millions de gens si l'on regarde l'ensemble du XXe siècle.
Oui, il y a une grande peur de la dégénérescence des races à cette époque. C'est un thème très courant dans la littérature, et notamment donc dans la littérature populaire, mais également scientifique. Alors en France, il y a la peur de la dégénérescence de la race après la défaite contre la Prusse, donc qui deviendra l'Empire allemand ensuite. La peur de la dépopulation, la peur du grand remplacement qui est déjà présente chez Bertillon. Donc c'est un thème que l'on connaît plutôt peut-être plus pour notre époque, et le Renaud Camus, le 21e siècle, mais en réalité, cette peur du grand remplacement apparaît dès les années 1890. Donc, on encourage les peuples à la natalité. Donc, ça, c'est dans le cas européen, mais il y a effectivement des répercussions dans le cadre colonial. Et l'on peut penser au premier génocide du 20e siècle, qui est considéré d'ailleurs par de nombreux historiens comme la matrice des génocides contemporains. C'est le génocide des peuples Herero et Namas, donc qui ont été exterminés à environ 80% pour le peuple Herero et environ 40 à 50% pour le peuple Nama. C'est un génocide qui est perpétré donc en Namibie. À l'époque, ce territoire s'appelle le Sud-Ouest africain et il est colonisé par l'Allemagne. Ce génocide a lieu entre 1904 et 1908 et il est nourri par le type de citation que l'on a entendu tout à l'heure de Gustave Le Bon, cette idée selon laquelle certaines races étaient vouées à s'éteindre. Donc c'est dans le cadre d'un soulèvement de ces peuples que l'extermination est planifiée et déclenchée, notamment orchestrée par le général Lothar von Trotha, qui est nourri, tout comme le père de la colonisation allemande Karl Peters, nourri de ses théories sur les races humaines, sur l'idée de l'existence de races humaines inférieures, sur l'idée eugéniste également, ces idées eugénistes qui apparaissent. Et l'on voit dans la littérature, chez Gustav Frensen notamment, la légitimation de cette extermination par cette idée selon laquelle ces peuples étaient de toute façon voués à l'extinction, à une extinction future. Et Gustav Frensen, qui légitime ce génocide, se voit ensuite cité et loué par Adolf Hitler, qui considère qu'il y a en Afrique, mais également aux États-Unis, de nombreux exemples à prendre, notamment au sujet des camps de concentration ou bien de la ségrégation raciale qui est en cours aux États-Unis.
Et le Edward Scorsese.
Il y a également, comme le disait donc Delphine, cette idée de dégénérescence qui va pousser un certain nombre de scientifiques, de naturalistes à continuer à produire ces théories dans un contexte où pourtant elles commencent à être battues en brèche. Mais il y a aussi la peur de la dégénérescence de la science elle-même. Et ça, c'est une idée très intéressante parce que des scientifiques comme Baker vont par exemple revendiquer une certaine neutralité pour défendre justement leur propre objectivité scientifique à une époque justement où il y a la montée en puissance des sciences sociales, de l'anthropologie sociale, dès la première moitié du XXe siècle, qui viennent remettre en question aussi la toute supériorité de ces théories sur la place publique. Et donc Baker, il vient retracer une frontière symbolique entre ce qu'il considère être la science, neutre socialement, et ce qu'il voit comme des nouvelles fausses sciences. Et donc, c'est très, très présent dans son discours dans les années 1970. Et il écrit aussi une période, justement, où la catégorie de race commence à changer de définition, puisque des sociologues, des anthropologues vont commencer à la définir comme une construction sociale. Et donc, c'est aussi à cette époque-là que Baker va, par exemple, écrire. Donc, je prends cet exemple parce que c'est un exemple qu'on développe dans le livre. Et donc, ce qui est très intéressant, c'est que finalement, il continue à produire ses théories en s'appuyant sur finalement cette structuration de ce qu'on appelle dans le livre le besoin de méconnaissance, c'est-à-dire la manière dont lui et d'autres auteurs qui continuent à défendre cette croyance en la matérialité de la race vont refuser proprement le débat et les critiques venant notamment des sciences sociales, venant de l'anthropologie sociale, visant à montrer finalement que s'il y a effectivement des effets sociaux de la race, notamment en médecine, et qu'on peut expliquer des différentiels de diagnostic parce qu'il y a effectivement ces effets sociaux, hein, notamment dans l'alimentation, on peut penser à des causalités environnementales. La réalité de la race au sens biologique du terme, elle, n'a pas lieu d'être. Et donc, en refusant la complexité et en rejetant les discussions ambitieuses et nécessaires, par exemple, sur le constructivisme, il dénigre, ces savants dénigrent des productions en sciences sociales sur les rapports sociaux de race, et donc il laisse aussi la porte ouverte au déferlement de croyances se présentant comme faussement scientifiques qui arme aussi les citoyens et les citoyennes qui y sont exposés.
Avec ce travail réalisé, vous l'avez cité, par l'UNESCO, l'Organisation des Nations Unies pour l'Éducation, la Science et la Culture, ça c'est à partir des années 1950, et quand vous parlez d'anthropologie, j'imagine que Claude Lévi-Strauss n'est pas loin dans cette démarche-là, pour montrer que la culture l'emporte sur toute considération biologique, mais malgré tout, Delphine Peretti-Curtis, on entend bien ici que ces théories traversent le temps et demeure présente encore. Aujourd'hui, je l'entends, elle s'adapte aussi, parce que faut pas que ce soit trop visible, parce que sinon on se fait taper sur les doigts, mais ces idées-là demeurent.
Oui, on a plus ou moins substitué à l'essentialisation biologique une essentialisation culturelle des individus. Les stéréotypes raciaux et racistes n'ont pas disparu. Ils se sont parfois transformés, ils ont muté. On parle aujourd'hui plutôt d'une non-assimilation culturelle des populations. Et l'on rejoue des stéréotypes raciaux qui sont en fait éminemment biologiques sous le masque de la culture, mais quoi qu'il en soit, que ce soit biologique ou culturel, il y a là des formes d'essentialisation, c'est-à-dire de réduction d'un individu à des stéréotypes, de catégorisation d'un individu auquel on associe certains traits physiques, certains traits moraux, certains traits culturels et intellectuels, mais aussi certaines aptitudes. Et cela conduit à des discriminations majeures dans différents domaines, dans le domaine de la santé, mais également dans le domaine de l'emploi, du logement. Donc il y a... Les années 1950-1960 ont invalidé le concept de race humaine biologique. Les études sur les races humaines ont disparu avec les indépendances et la fin de l'intérêt pour ces études. Mais ces préjugés, ces stéréotypes et les discriminations qui en découlent n'ont hélas pas disparu.
Delphine Peretti-Curtis, j'en profite pour rappeler que vous êtes l'autrice de Corps noir et médecin blanc, la fabrique du préjugé racial du 19e siècle au 20e siècle. Élodie Edwards-Grossi.
Il y a aussi, comme le disait donc Delphine, donc des biais, mais il y a aussi des biais de prise en charge qui se fondent sur une absence de données, et ça on peut voir que c'est finalement la résultante aussi de la circulation de ces théories qui ont confisqué véritablement la possibilité en fait aux médecins notamment contemporains de davantage s'intéresser alors au corps altérisé mais de la bonne manière, c'est-à-dire en cherchant aussi des causes par exemple environnementales. Je pense notamment à un certain nombre de maladies environnementales qui sont encore comprises aujourd'hui comme ayant des fondements génétiques et qui sont définies par un certain nombre de chercheurs et de médecins en médecine comme des différentiels raciaux.
Avec ici le racisme scientifique et médical, votre ouvrage, Élodie Edwards-Grossi, Delphine Peretti-Curtis, du 19e siècle à nos jours. C'est le sous-titre, le à nos jours, on l'a bien entendu. C'est publié aux presses universitaires de France. Merci vivement à toutes les deux d'être venues dans le cours de l'histoire. Prochain épisode, race et république, histoire d'un tabou français.
Je ne crois pas du tout que le racisme soit en régression. dans ce qui est ma vie, qui est quand même relativement longue déjà, eh bien, je peux dire que j'ai assisté à des progrès foudroyants du racisme. Et je trouve qu'on est beaucoup plus raciste à l'heure actuelle, moi je ne le dis pas le dire, et dans toutes les couches de la population européenne et française, puisque j'y suis, qu'avant 1939.
Nous venons d'entendre Aimé Césaire qui s'exprime en 1976 dans Le cours de l'histoire, une émission réalisée par Thomas Beau à la technique, Anthony Thomasson, émission préparée par Raphaël Laloum, Jeanne Delecroix, Jeanne Copé, Sidonie Lebeau, Luce Mourant, Chloé Rouillon et Mayou Nguizhou. Émission écoutée à podcaster sur franceculture.fr et l'appli Radio France.